Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Viking Life. Je suis Victoria, la créatrice de ce podcast. Je t'emmène découvrir chaque semaine un sujet intéressant de la parentalité, de la jungle du travail, de la jungle de la vie avec trois enfants très rapprochés. Enfin bref, on parle d'un sujet cool chaque semaine, du moins j'essaye. Cette semaine, je vais t'emmener découvrir toute notre périple avec les autistes à répétition de un de mes enfants. Mais je vais en dire plus tout de suite. Allez, c'est parti. Welcome! Je suis contente de vous retrouver. Je n'ai pas pris le temps d'enregistrer un épisode plus tôt, donc là il est un petit peu en retard. Tant pis, je fais avec les moyens du bord parce que ce podcast me tient à cœur, mais c'est vrai que j'ai pas mal de choses à côté. Donc je continue sur ma lancée, mais à ma vitesse. J'avais de grands projets pour cet épisode. Je voulais enregistrer avant l'opération et je voulais enregistrer après l'opération parce qu'il a eu une pause de diabolo. Alors, opération. Ils disent que c'est une opération. J'ai appelé un peu en catastrophe. Enfin, j'ai envoyé un texto à un super copain qui est chirurgien. Il m'a dit « Victoria, c'est une intervention. Ne t'inquiète pas. » Pour nous, c'est un bénin, mais moi, pour moi, avec mon cœur de maman, c'était quand même un peu compliqué. Donc, je vais retracer les faits un petit peu de notre passif avec les autistes. Alors, tout d'abord, Lucas, numéro 1, zéro souci. Je crois que je n'ai jamais eu une otite pour lui, ou peut-être une fois, mais je n'ai pas le souvenir qu'il ait eu une otite. William, on commence à avoir un peu plus d'otite, notamment vers ses 2 ans et demi, quand il rentre à l'école. À chaque rhume, il a une otite. On est sur un épisode de 5 otites durant le premier hiver, donc l'hiver 2022 à 2023, donc l'année dernière. Cet épisode de 5 otites nous emmène directement chez un ORL. L'ORL, on est en fin mars quand on a un rendez-vous et l'ORL me dit qu'on a une très faible perte d'audition, qu'il n'est pas impacté au jour le jour et qu'on va tenter, surtout que vu qu'on est proche du printemps, de mettre un spray. Le spray, c'est du Nasonex qu'on a aussi pour les adultes. À partir de septembre, tous les jours, un spray Nasonex pour assainir les muqueuses. Avec un lavage de nez très régulier et on se revoit, on se revoit un an après, en l'occurrence on va se revoir là en mai. Ça a très bien marché puisqu'on a eu la première otite la semaine dernière, donc il n'a plus fait d'otite, c'est-à-dire que tous ses rhumes ne tombaient pas en otite et ça s'est très bien passé pour lui cet hiver, donc j'étais très contente. Ensuite, nous avons Monsieur Maxime. Monsieur Maxime, donc né le 11 novembre 2022. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'à juin. Donc il a 7 mois et il fait une première otite avant son entrée à la MAM. Il fait une première otite, je pense qu'il a à peu près 7 mois, 8 mois. Et là on se dit, là c'est couplé avec une poussée dentaire. Il va faire des otites avec les poussées dentaires. Ok. Je suis prête psychologiquement. Et là, à partir de juin, c'est pas une otite avec les poussées dentaires, c'est une otite qu'il aura H24 ou presque. C'est-à-dire qu'il fait sa première journée à la MAM mi-juillet, donc là on est fin juin. 15 jours après, il fait sa première entrée, donc bien sûr avec les microbes, etc. Je crois qu'il chope un petit rhume et en fait, il a une otite en permanence ou presque. Donc on commence à le mettre sous antibiotiques une fois, deux fois. Et là, je commence à me dire, mais en fait, on va pas le mettre sous antibiotiques à chaque otite. Alors au début, ça marche. Donc ça réduit les otites. On va avoir 15 jours, 3 semaines, ok. Ça se passe plutôt bien. Septembre arrive, ça se passe aussi à peu près ok, bien que j'ai une otite tous les 15 jours à 3 semaines. Octobre, mi-fraise, mi-framboise quand même. Je vous dis pas le nombre, enfin je vais vous le dire le nombre d'otites à la fin, mais on sent que c'est un peu complicado. Il réagit plutôt bien dans le sens où c'est pas non plus catastrophique comment lui va réagir aux otites. On voit que des fois, il va être un peu plus ronchon, mais je me dis que c'est tout le temps couplé aux dents. Mais c'est pas, c'est vrai que c'est pas catastrophique, son histoire de gestion de la douleur. Ou il s'habitue à la douleur, donc ça. Et là, il a à peu près... Donc il va avoir ses 1 an, il a pas encore ses 1 an. Et là, il a un gros épisode où il est vraiment malade. Il attrape une bronchiolite. Donc il a bronchiolite, il a double otite. Et à partir de ce moment-là, donc c'était vraiment, j'ai revu, c'était le 9 novembre, donc juste quelques jours avant ses 1 an. Et là, en fait, bon alors, pour la petite histoire, ça va vous faire sourire peut-être. C'est Oscar qui avait été, et en fait, il n'avait pas trop compris que c'était une bronchiolite. Il avait compris que la ventoline, on faisait que en cas de nécessité, et en l'occurrence, non, il fallait absolument la faire. Donc, on avait le traitement, on avait commencé une semaine après, parce que moi, j'avais rappelé derrière en disant, bah en fait, ça va pas mieux du tout, enfin, ça... il fait une réaction aux antibiotiques, ils avaient mis Augmentin, et Augmentin c'est un des plus forts qu'il y a, enfin il y a Amoxicilline qu'il avait souvent, après il y a Orelox pour les otites, et après il y a Augmentin, et là il l'avait mis sous Augmentin, sauf que le pauvre il a fait une réaction, il avait fait un érythème fessier, les couches c'était très compliqué, plus la bronchiolite, plus les otites, enfin là c'était vraiment, je m'en souviens, je crois qu'il n'avait pas été pendant 3 semaines à la MAM, c'était quand même hyper compliqué, et en fait on ne voyait jamais le bout. Et en plus, les gens qui... C'est assez drôle, mais les gens qui voient ça d'un œil extérieur, ils se disent « Mais en fait, ces enfants, ils sont tout le temps malades. » Alors oui, ils sont malades assez souvent, mais en fait, pas tant que ça, mais c'est juste qu'il y en a toujours un qui est malade. Mais en gros, je vais en avoir un qui est malade, le temps que le troisième attrape sa maladie, il s'est peut-être passé un mois, et du coup, tous les mois, on réenchaîne, quoi. Donc ça, c'est un peu le cercle. Et puis, il suffit que moi, je chope. J'ai quand même été très malade cet hiver. Alors après, c'est pas que par rapport aux enfants. Je pense que le temps catastrophique, il y est pour ceux qui savent pas où je suis en Bretagne, entre Vannes et Nantes. Et bah en fait, on a des trombes d'eau tous les jours. Mais enfin, là, je sais même pas comment c'est possible qu'il ait plus autant. C'est un des hivers les plus pluvieux depuis qu'on est rentré en 2020. Et donc ça va faire, c'est le quatrième hiver qu'on est là, et franchement, mais c'est catastrophique en fait. C'est une catastrophe, je sais pas comment c'est possible. Ah ouais, je me suis dit que je m'égarais pas sur le temps, mais je me dis que ça a peut-être un effet sur cette histoire. Donc là, on est en novembre, et je commence à dire, bah en fait, moi je veux voir un ORL, parce que là, de juin à novembre, il s'est passé à peu près 6 mois, enfin un petit peu moins, mais... Et en fait là, on a... pas de solution. Oui, ça peut être lié aux poussées dentaires, mais je me dis, on peut pas le laisser comme ça tout le temps. Il y a peut-être, dans ma tête, moi, je me disais, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à le spray qu'il m'avait donné, qui est un peu plus fort, ou je sais pas. Donc bon. Et en fait, on me dit, bah oui, mais de toute façon, ils vont rien faire de plus que nous, du fait que il y aura pas d'opération, il est trop petit, etc. Novembre se passe, décembre se passe, et là je flippe un peu parce qu'on doit prendre l'avion, et je sais qu'il a une otite, je le vois, donc je vais chez le médecin, bingo, il a une otite. Donc là on change carrément la molécule, on prend un antibiotique que j'ai jamais eu, et on se dit on va essayer de voir. Alors là c'est assez drôle parce que quand on arrive en Suède, c'est William qui est malade, je pense qu'il a une otite, mais on n'a jamais pu aller vérifier parce que en Suède les services... En fait, c'est un peu compliqué la Suède quand même par rapport à ça. Je vais quand même faire une petite parenthèse sur la Suède. Mais c'est que en gros, quand on est malade, on appelle un numéro qui est le 1177 pour des conseils. Là, on va avoir une régulatrice, donc en général, c'est une infirmière qui va nous dire restez chez vous ou venez dans un centre. Une fois qu'on va dans un centre médical, on est reçu par un infirmier qui évalue. Soit l'infirmier nous donne une prescription, genre, moi je m'en souviens une fois, je m'étais fait à moitié une petite entorse ou je sais plus quoi. Donc j'avais eu cet infirmier, il m'avait donné une espèce d'attelle et un truc, un gel genre Voltaren, et j'étais repartie chez moi. Soit il juge que l'infirmier, c'est un cas un petit peu plus compliqué. Dans ces cas-là, on va être en liste, enfin, ils vont nous changer d'étage, ou, enfin, bon, je pense d'étage parce que je parle de celui que, dans lequel j'étais, mais ils vont nous changer de service et ils vont dire, là, vous faites la queue, vous êtes le numéro 35, et il y a un médecin qui va vous prendre en charge. Et donc là, on attend avec toutes les autres personnes qui sont venues. on n'a pas de rendez-vous chez le médecin à proprement dit comme nous. Hormis si, enfin non, du coup, c'est pas un rendez-vous chez le médecin. La plupart des personnes vont aux urgences directement. Et en mode, j'aggrave à chaque fois mes symptômes pour être vue. Parce que même Oscar, on a beaucoup, beaucoup de mal. Il a fait une grosse bronchite. Il devait avoir des antibiotiques cet hiver. Et en fait, il voulait pas aller chez le médecin. Mais il toussait tellement qu'il toussait du sang presque. Et il était, ah non, non, mais ça va aller, je vais prendre un Doliprane. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Ben non, en fait, il y a des solutions. Alors, je pense qu'en France, on est peut-être des fois un peu extrême, mais en Suède aussi, du coup. Enfin, là, il y a peut-être un juste milieu. Parce que quand je vois le nombre de papiers, je comprends toujours pas pourquoi les ordonnances ne sont pas sur nos cartes vitales. À partir de quel moment on imprime? C'est quoi ce truc-là? Enfin bref, ça c'est un autre sujet, encore un autre débat. Donc là, on arrive en décembre et là, de toute façon, il a une otite H24. Je n'ai pas pu faire les vaccins de ces un an parce qu'il est malade. Et du coup, on recule toutes les semaines, je retourne chez le médecin pour vérifier. Et toutes les semaines, elle me dit, il y a une otite. Et là, début janvier, je dis, en fait, moi là, je peux pas. Enfin, je peux pas mettre plus d'antibiotiques, je peux pas. Enfin, il faut qu'il y ait un changement là, c'est plus possible. Et du coup, elle me donne un papier pour enfin aller voir un ORL. Et là, par contre, ça se corse parce que je ne trouve pas d'ORL. J'appelle les. Donc, on est entre Nantes, Vannes et Rennes, au final. Je suis à 1h10 de Rennes, 35 minutes de Vannes et 45 minutes de Nantes, en gros. Et. Oh, pardon, j'ai un petit coup de fatigue. Et en fait, du coup, là, j'appelle tout le monde. J'appelle à Rennes, j'appelle à Nantes, j'appelle à Vannes et j'essaie de trouver. En fait, tout le monde me dit, on a des listes d'attente de malades. Soit il faut que votre médecin appelle, soit vous attendez. Mais là, on n'a pas de rendez-vous avant. Donc là, on est en janvier 2024. Et là, il me disait, on n'a pas de rendez-vous avant septembre, on n'a pas de rendez-vous avant novembre. Enfin, là, c'est pas possible, en fait. Et là, je suis là, ok. Bon, ça va être bien sympa. Donc, je retourne chez le médecin pour faire une vérif des oreilles et j'explique mon problème à la médecin. Je dis, c'est hyper cool cette histoire d'ordonnance, mais le problème, c'est que je n'ai pas de rendez-vous. J'ai appelé 10 cabinets, j'ai pas de rendez-vous. Et j'ai appelé aussi celle qui nous suivait avec les deux premiers, puisqu'on a quand même une ORL qui nous suit. Et en fait, elle pouvait, mais 3 mois de délai. Donc même sur quelqu'un qui nous suit, on avait 3 mois de délai. Donc, la médecin m'a dit, vous inquiétez pas, je vais faire appeler mon secrétariat, on va essayer de vous trouver un rendez-vous plus rapidement parce qu'il a encore une otite. Et au final, ils m'ont trouvé un rendez-vous en 2 ou 3 semaines de mémoire. Donc là, on arrive au rendez-vous de fin février. Je ne connais pas cette ORL, je ne l'ai jamais vue. On va à ce rendez-vous ORL. Quelques jours avant le rendez-vous ORL, il nous refait une bronchiolite et le pauvre, franchement, il avait tout. Bronchiolite, double otite, et il avait la 5e maladie qu'un de ses frères avait ramené de l'école. Et en fait, la 5e maladie, c'est un espèce de pied-main-bouche qu'on a sur tout le corps, avec un peu de fièvre, gonflé ou non. Et en fait, c'est un gros érythème qui gratte, quoi. Et quand il s'est réveillé le matin, j'avais envie de rigoler, mais c'était pas drôle. Mais le pauvre, il était tout rouge, il en avait partout. J'étais là, mon pauvre chaton, c'est pas possible. Donc, ils nous fait une bronchiolite et la médecin me dit, il faut qu'on le mette sous Ventoline et Fluxotide, je crois, de mémoire, pour voir si ça va aller mieux au niveau des bronches. Quelques jours après, nous avons rendez-vous chez l'ORL. L'ORL regarde le dossier et me dit, madame, vous vous rendez compte qu'il y a 14 otites depuis juin? Et j'étais là, je pense sincèrement que c'est même pas 14 otites, c'est que depuis la première bronchiolite, donc de novembre, nous n'avons jamais réussi à enlever l'otite. C'est qu'il y a toujours du liquide, c'est qu'il est tout le temps malade. Mais du coup, moi, j'essaie de lui demander pourquoi il est malade, en fait. Enfin, est-ce qu'il y a une cause? Est-ce qu'il y a un terrain allergique? Est-ce qu'il y a une intolérance aux protéines de lait de vache? J'ai plein de questions. Mais là, il me dit, alors oui, je comprends votre questionnement, mais je pense que là, il faut plutôt qu'on traite, donc c'est-à-dire qu'on lui fasse une pose de diabolo qui s'enlèvera par une seconde chirurgie, comme ça on peut contrôler, parce que vu qu'il est petit, là il va grandir, autrement les diabolos vont sauter tout le temps, et à voir si la pose de diabolo suffit à elle-même et on enlève les végétations un peu plus tard. Ça dure vraiment pas longtemps, ce rendez-vous. En plus, je suis un petit peu tendue parce que quand je vais dans des rendez-vous médicaux, bah déjà, il y a tous les papiers, les machins, le dossier à préparer. Oscar m'a accompagnée, mais Oscar a 350 000 questions, il faut que je traduise. Et du coup, j'ai pas l'impression d'être là. Enfin, je fais que de la traduction, j'ai... Enfin, bon, bref, c'était pas un climat très, très, très adéquat. Je comprends pas pourquoi mon truc, il va à fond, là. Bon, c'est pas grave. Ça enregistre, c'est le principal. Et du coup, je sens que je suis pas dans un climat hyper adéquat. Et là, je sors du rendez-vous et je dis non, mais je sais pas si c'est la meilleure solution. Est-ce qu'on pourrait pas traiter la cause avant? Et en fait, je commence à questionner, je commence à stresser. Lui, le docteur, est en mode hyper relax. C'est sous anesthésie générale, c'est en ambulatoire, c'est vraiment anodin, tout va bien se passer et tout ça. Et moi, je suis en mode, mais comment ça, c'est sous anesthésie générale? Alors, oui, je comprends et c'est mieux, mais. Je peux être, enfin, je peux l'accompagner jusqu'au bloc, comment ça se passe? Là, j'ai 350 000 questions en me disant, ben en fait, attendez, j'ai envie de faire une pause parce que je trouve ça bizarre. J'ai l'impression que mon logiciel était un peu bizarre. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression que c'était un peu décalé. Bref. On verra. Alors, vous écouterez, vous me direz. Et donc là, je commence à me questionner en mode, ben, il est trop petit, il devrait pas être sous-âgé, pourquoi? Enfin, bon, là. Je commence un petit peu à ruminer et du coup, je demande des retours d'expérience, dont des personnes que je connais qui ont eu aussi cette personne-là en opération, qui me rassurent en me disant que tout s'est bien passé, que y a... Et en fait, je trouve pas une personne qui me dit non, vraiment, j'aurais pas dû faire cette opération. Tout le monde me dit oui, on en parle calmement avec Oscar, parce que j'en parle aussi avec les personnes qui gardent Maxime à la main, mais je leur dis, mais attendez, ça a été trop rapide, ils ont mis le diagnostic comme ça. Elles m'ont dit oui, mais d'un côté. C'est que, en fait, s'ils sont sûrs d'eux, faut peut-être y aller. Et j'étais là, ah oui, bah oui, vous avez peut-être raison. Donc là, moi, j'étais dans le flou total parce que j'avais un peu peur. J'avais un peu peur des conséquences. Ça restait quand même une intervention. Enfin, on est à l'hôpital, on est sous-âgé, etc. Donc moi, là, mon cerveau, il était en mode, ça va pas. J'ai réussi à me temporiser un peu le truc en mode, bah, j'ai quand même essayé d'avancer mon rendez-vous ORL de notre. Celle qui nous suit, elle ne pouvait pas plus tôt. Donc je me suis dit, bon, Victoria, là, tu arrives à avoir un rendez-vous. C'est hyper rapide. Et en fait, oui, c'est ça que je ne vous ai pas dit. Entre le rendez-vous ORL, le premier rendez-vous ORL, et le rendez-vous à l'hôpital, il se passait 2 semaines et demie. On a été genre fin mars, fin février. Et... 2 semaines et demie plus tard, c'était le rendez-vous pour l'opération. L'intervention, pardon. Et donc là, j'ai quand même eu 2 semaines où j'ai pu un peu cogiter. Bon, j'ai pas trop cogité parce qu'Oscar était en déplacement. Donc là, je m'occupais des enfants et ça allait à fond. Là, quelques jours avant, je commence à me dire, oula, fou. Là, je dis à Oscar, si, si, on va le faire. Donc j'ai eu le rendez-vous anesthésiste. Je demande au rendez-vous anesthésiste comment ça se passe pour tout ce qui est... alimentation. Donc là, la personne m'imprime une fiche avec prise d'aliments. Je sais plus, alors je vous dirais des bêtises, mais je crois que ces prises d'aliments, c'est 7 heures avant l'opération ou 12 heures, peut-être même. Enfin bref, prise d'aliments, du coup, c'était le soir. Nous, il n'y avait pas de questions. Il était en ambulatoire à 7 heures à l'hôpital. Et par contre, 2 heures avant, donc il avait le droit de boire, donc à 5 heures. Et je demande, est-ce que j'ai le droit de l'allaiter? Oui, 2 heures avant, vu que c'est du liquide. En l'occurrence, vous allez voir, c'est un truc important. Donc, me voilà partie avec mon dossier. Toute là, j'ai fait mon dossier de préinscription, préadmission, tout est nickel, parfait. Je suis prête à aller à cette opération. Et là, je m'étais dit la veille, j'allais vous enregistrer. Et là, la veille, j'ai eu un petit breakdown. Je faisais que de pleurer. Je n'arrivais plus à réfléchir à quoi que ce soit, dans le sens où c'était ultra complicado parce que j'avais hyper peur. J'avais peur que ça se passe mal. Je me suis dit, dors enfin bien, qu'est-ce qu'on va s'embêter, si ça se trouve, bah c'est peut-être pas la solution. Et là, je remettais tout en question. Alors, autant vous dire que j'ai dormi que dalle. J'étais en apnée. J'arrivais pas à prononcer 2 mots. Et du coup, en plus, c'était tendu avec Oscar parce que j'étais un petit peu agressive. Donc, bon, on sentait que c'était vraiment pas bien. Donc, j'ai été me coucher où j'ai essayé de dormir. À 4 h, j'étais réveillée. J'étais réveillée à 5 h 15, mais j'étais réveillée, j'ai réveillée. J'ai allaité à 5 h 15 et nous voilà partis à l'hôpital. Je n'ai pas pu avaler un truc. La veille, j'avais presque pas mangé non plus. J'étais blanche de chez blanche. Et donc, on arrive, on fait l'admission. Ça a été jusqu'à ce qu'on arrive dans la chambre. Tout s'est bien passé. Là, je tenais mes larmes. Tout allait bien. On a joué et tout. Et là, je me suis dit, bon, bah, super. On l'a mis à jouer. On lui a mis un peu la télé. Elle nous dit, mettez-lui la télé, ça va le détendre. Sauf qu'un petit d'un an et quatre mois, ça, il s'en fout de la télé, en fait. Il préférait jouer avec la télécommande qu'autre chose. Et là... La infirmière passe nous donner la tenue de bloc et l'anesthésiste passe nous poser la question et vérifier surtout ses poumons, sa température, etc. Parce que les poumons sont pas hyper clean. En l'occurrence, il a quand même été accepté, mais ils lui ont fait un aérosol parce qu'ils le trouvaient vraiment pas, enfin encore en bronchite. Jusque-là, tout va bien. Et là, il vient de me dire, bon, bah, du coup, il est à jeun. Et je dis, bah oui, je l'ai juste allaité à 5 heures. Et là, il me dit, comment ça, vous l'avez allaité à 5 heures? Ben, je dis, bah, votre anesthésiste m'a dit, j'ai eu un rendez-vous anesthésiste, je lui ai demandé spécifiquement est-ce que je pouvais allaiter. Et là, il me dit, alors là, il faudrait une fiche claire parce que quand on met liquide, c'est que de l'eau ou du jus de pomme. Ben, j'étais là, bah non, moi, il m'a dit que je pouvais allaiter. Oui, bah non, le lait maternel, c'est 6 heures et le lait en biberon, non, le lait en biberon, c'est 6 heures et le lait maternel, c'est 4 heures. Donc là, il va falloir que vous restiez, on va vous passer en fin de service. Et il va falloir que vous restiez 2 heures de plus dans la chambre. Oh, et là, ça a été la douche froide. Là, j'étais... Mais je me suis dit, mais comment je vais réussir à tenir? Parce que déjà, il y avait les nerfs qui étaient quand même hyper présents. Et là, je me suis dit, oh punaise, ça va être trop long. Et hein, il était dans mes bras, il demandait que à téter. Il voulait téter. Il avait trop faim. En plus, il mange énormément. Et donc là, c'était quand même ultra complicado. Et du coup, je faisais les 100 pas dans le couloir. Et je disais à Oscar, dis-moi qu'il est passé, il est quelle heure? Et là, il me disait, il est 8h33. Et genre, à 8h35, j'étais, il est quelle heure? Bah, il s'est passé 2 minutes. Et c'était horrible. J'avais l'impression que le temps reculait. Il avait trop faim, je ne pouvais pas le poser, je ne pouvais rien faire, on ne pouvait pas faire diversion. Toutes les 2 minutes, il remontait sur moi en disant tété. Et je ne savais plus quoi faire. Et il était levé depuis 5h, donc il était crevé de chez crevé de chez crevé. Là, il était à 8h. On attendait. Oh, je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va passer? Ils m'ont dit, bah, on vient le chercher entre 9h15 et 9h30. Oh, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop long. Et là, franchement, c'était vraiment hyper long. Donc des fois, je l'asseyais, et bon, il pleurait 5 minutes pour reposer mon bras. Après, je repartais et tout. Et je commençais à voir les étoiles. Je me suis dit, je suis pas loin du malaise parce que là, je sentais que je commençais plus à avoir de force. Il y avait un peu le stress. Enfin, là, je dis à Oscar, bon, là, c'est con que... Enfin, là, je sens qu'il faut que je mange quelque chose quand même. Donc, j'ai pris un... Il avait préparé des petits sandwichs. J'ai pris un petit sandwich que j'ai été manger caché bien dans la salle de bain parce que, bon, le pauvre, si je bouffais mon sandwich devant lui, je pense qu'il allait pas trop rigoler. Et on a attendu. On a fait les 100 pas. Et en fait, là, il commençait à s'endormir. Il était 9h15. Il commençait à s'endormir sur moi. Bon, je me suis dit, au pire, c'est pas grave, il s'endort. Et en fait, ils sont venus le chercher vers 9h40. Et bah là, il a hurlé, tché hurlé. Je l'entendais à travers les portes, c'était horrible. Il était trop fatigué. Donc là, ils lui ont fait... mais en fait, c'est quand même assez anxiogène. En mode, tout le monde est en blouse. C'est l'hôpital, c'est pas comme... comme le médecin ou l'OMM, l'ORL qui était un peu plus proche. Et puis oh, nous, on pouvait être là, on pouvait pas être là. Donc après, on a joué dans la chambre à Pictionary. On a essayé de relaxer un peu. Et si ça s'est bien passé, j'étais quand même hyper soulagée. J'avais un rayon de soleil sur moi, tout allait bien. Il faisait beau en plus ce jour-là. Et il est arrivé à 10h45. Donc là, ça a duré une heure. Ça a duré un petit peu plus longtemps. Normalement, c'est une grosse demi-heure. Mais là, vu qu'il avait un quart d'heure d'aérosol avant l'opération, c'est pour ça que c'était un peu plus long. Et il est arrivé, le pauvre, il était, mais je pense que c'était plus de l'appréhension et en mode, mais je connaissais personne, ils avaient tous des têtes bizarres et ils pleuraient trop et tout. Et c'était quand même assez impressionnant, moi j'ai trouvé. Là, quand je l'ai récupéré, là j'ai pleuré. J'ai pas pleuré quand il est parti, paradoxalement. Du coup. Donc là, il est revenu. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ses oreilles. Il n'y avait rien. Enfin, ça n'avait pas bougé. Et ensuite, l'infirmière passe, elle me dit, bon, bah là, c'est bon, l'opération s'est bien passée, tout va bien. Le chirurgien va venir vous voir dans la matinée, mais là, il faut le garder encore une heure assis. Des fois, il y en a qui s'endorment. Il ne faut pas qu'il bouge, il faut qu'il fasse cool et il ne faut pas qu'il allaite encore pendant une heure. Et dans une heure, on peut le faire manger. Et là, je me suis dit, 1 heure? Mais attends, mais c'est une blague. 1 heure? Il est à jeun depuis 5 heures, il n'en peut plus de la vie. Bon, alors j'ai essayé de le garder un peu à jeun et au final, je l'ai mis au sein. Je me suis dit, le pire qui puisse lui arriver à ce moment-là, c'est que bah il vomisse sur moi. Bon, bah, je me suis dit, tant pis. Et au final, il s'est endormi en tétant dans mes bras. Le chirurgien est venu, il m'a dit qu'il avait beaucoup pleuré quand même, parce que, à part quand il était endormi, mais c'était un petit peu compliqué pour lui, qu'il était un peu fatigué, mais que tout s'était bien passé, qu'il y avait encore une double otite avec beaucoup de liquide. Donc j'étais hyper contente d'avoir fait cette opération. Après, le post-opération, comment ça s'est passé? On a plateau repas, donc vers midi, il a mangé, il était mais. J'aurais dû filmer sa tête quand il a vu qu'il pouvait manger. C'était le plus heureux du monde. Il tient bien ça de moi, pour le coup. Un petit peu gourmand. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Bah ensuite, ils nous ont laissé sortir vers 12h45. Tout allait bien. Il marchait dans le couloir. Ça y est, il était parti à courir partout. Il a eu un petit coup de boost avec son plateau repas. Et du coup, ils nous ont laissé sortir. Tout allait bien. Si jamais ça allait pas, fallait rappeler l'hôpital, etc. Et au final, il a fait genre 2h30 de sieste, tout s'est bien passé. Les quelques jours après l'opération, moi, mes systèmes nerveux, en mode j'en pouvais plus de la vie, il y a eu un peu enfin, le contre-coup, entre guillemets, je faisais que dormir, j'avais envie de me coucher. Même là, je suis encore fatiguée, mais après, bon, on va pas mettre ça que sur l'opération, il y a aussi le temps, mais quand même hyper, hyper fatiguée. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Lui, par contre, il a pas fait des super nuits. Bon, il a sorti ses 2 grosses molaires et il a eu ses vaccins la même semaine, le pauvre. Mais il a pas. C'était une semaine un peu compliquée quand même pour lui. Ça pleurait un petit peu la nuit. Je l'ai réalisé quelques fois d'ailleurs dans la nuit. Mais là, ça y est, il est reparti. Donc là, on est à 10 jours de l'opération, enfin J plus 10 après opération, et là nickel. Et il y a un truc qui nous a fait qui était assez drôle. Le lendemain de l'opération, il s'est mis à marcher. Alors il marchotait, il faisait 3-4 pas, il s'asseyait. Mais le lendemain de l'opération, il s'est mis à marcher de fou. Et là il marche, mais limite il court. Et il a vraiment, vraiment, vraiment progressé là-dessus. Et moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien avec le fait qu'il y ait du liquide, perte d'équilibre, etc. Parce que c'est vrai qu'il marchait 2-3 pas, il tombait, il marchait 2-3 pas. Et là, plus du tout. Enfin, après, il est dans son apprentissage de la marche. Donc, si, il y a encore des petits bouts. Mais si je compare, c'est une acquisition, entre guillemets, normale de la marche, même si tout est normal et il n'y a pas de. Là, je vois quand même qu'il y a un truc qui a été débloqué après cette petite opération. Donc, voilà. Est-ce que j'ai. Ah oui, et après, pendant 5 jours après l'opération, on a eu des bains d'oreilles, donc à faire avec de l'eau oxygénée, plus des petites gouttes à lui mettre, et nickel. Comme sur des roulettes, il y a eu un petit peu de liquide qui a coulé, mais pas ouf. Et là, j'ai un rendez-vous de contrôle dans quelques semaines. Un mois après l'opération, donc trop ravie, enfin l'intervention, trop ravie d'avoir pu la faire. C'est vraiment, si j'ai un conseil à donner, s'il y a des personnes qui sont dans le même cas que nous, bah en fait, à partir de plusieurs otites, c'est pas normal. Alors oui, on ne sait peut-être pas la cause exacte, dans le sens, on sait peut-être pas, bah si ça se trouve, en fait, Maxime, il y a une allergie derrière au pollen ou je sais pas, enfin. Après, j'extrapole et là, je ne peux pas dire. Mais il faut des fois mettre en place des choses comme ça qui permettent un confort à l'enfant. Mais royal. Enfin, en fait, là, il n'y a plus d'otite. Et donc, quand j'ai été chez le médecin 3 jours après pour vérifier que ce soit bien en place et tout ça, il me dit, bah non, il n'y a pas d'otite. J'étais, ah, mais ça m'est pas arrivé depuis genre 6 mois qu'on me dise qu'il n'y ait pas une otite sur mon fils. Enfin, c'est quand même trop bien. Même pour lui, il doit revivre en fait. Donc c'est pas facile et je trouve qu'ils durcissent un peu les enfants en mode ils sont durs au mal là-dessus. Mais voilà. Donc si j'avais un conseil, s'il y a des mamans qui sont un peu comme moi en mode est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, bah allez-y. Je pense que si vous avez eu les conseils médicaux pour le faire, c'est qu'il y a des raisons et que ça va être que du positif. Donc voilà, je vous ai fait un gros gros dossier sur la pose de diabolo, enfin d'aérateur, ça s'appelle la pose d'ATT bilatérale exactement. J'ai appris les termes maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. Et je reste disponible. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine!